Merci beaucoup, merci de l'accueil, merci de la présentation, Monsieur Nadeau. C'est toujours un plaisir pour moi que de revenir dans ma région natale. Je me souviens que la dernière fois que j'étais dans cette salle, j'avais 18 ans et des cheveux. C'était pour, si je me souviens bien, assister à un concert acoustique de Luc de la Rochelière, qui était lui aussi tout jeune à l'époque. La question des paradis fiscaux, fort heureusement, est au goût du jour. Fort heureusement, au sens où, enfin, sur un mode large, on arrive à soulever ce problème tellement important. Et sans trop de détours, comme on est à un moment où on se pose beaucoup de questions sur ce qu'il représente, sur les enjeux qu'il constitue, je vais aller dans le vif du sujet puis essayer d'une part de les définir sommairement, d'expliquer en quatre points en quoi il constitue une menace pour les États de droit traditionnels. Et je finirai en expliquant en quoi le Canada est en grande partie responsable de leur avènement, tout en concluant sur le fait qu'au fond, le Canada est un peu lui-même aussi devenu un paradis fiscal. Ça fait beaucoup de choses, mais on va emballer tout ça en quarantaine de minutes pour avoir, disons, un portrait de la situation. La définition type du paradis fiscal, en quatre points, c'est une législation, pas nécessairement un État, mais une législation, c'est-à-dire une ère où il y a un gouvernement. Ça peut être un État comme l'État du Delaware aux États-Unis, ça peut être une colonie qui a son propre gouvernement, ça peut être aussi un pays en bonne et due forme. C'est une législation où il n'y a pas d'impôt prévu pour un certain type d'acteur, premier point. C'est pour ça qu'on dit des paradis fiscaux, mais ce n'est pas que ça. Le deuxième point concerne le droit. Dans un paradis fiscal, il n'y a pas de loi qui vaille. Il n'y a pas de loi consistante, digne de ce nom. Le droit, souvent, est formulé de telle sorte qu'il donne libre cours à tout. Et il constitue en quelque sorte une doublure négative du droit tel qu'il existe ailleurs. C'est comme si on retournait le droit d'un autre pays comme un gant. Si vous lisez, par exemple, une directive ou une norme ou un règlement dans un paradis fiscal sur les trusts, bien, il sera écrit, par exemple, dans notre législation, un trust peut être créé par n'importe qui, n'importe quand, fonctionnant n'importe où, avec n'importe quel capital, faisant n'importe quoi, n'importe où, tant qu'il veut, avec n'importe qui. C'est à peu près écrit comme ça. C'est du non-droit transformé en droit et qui vise à neutraliser le droit tel qu'il existe ailleurs. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans ces législations-là, c'est pour avoir droit à du non-droit. C'est pour pouvoir échapper au droit tel qu'il existe d'une manière contraignante dans des pays traditionnels comme le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, et ainsi de suite. Le troisième point concerne ce qu'on appelle le secret bancaire. Le secret bancaire, c'est une disposition que mettent en application très souvent les législations de complaisance, les paradis fiscaux, pour permettre aux acteurs qui s'y trouvent inscrits d'évoluer dans la discrétion la plus complète, pour ne pas dire la plus opaque. C'est un droit, souvent c'est inscrit dans le droit criminel, ces législations-là, qui consiste à interdire à un agent bancaire, par exemple, actif dans ce pays-là, de divulguer quelque information que ce soit à qui que ce soit, sous peine, sinon, d'être passible de sanctions criminelles, emprisonnement, ainsi de suite. Et le dernier point, il concerne un aspect qui est constitutif d'à peu près tous les paradis fiscaux et toutes les législations de complaisance, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'activité substantielle. Bon, très souvent, quand on inscrit une société au Delaware, à la Barbade, à l'île de Man, à Singapour, tout ce qu'on fait, c'est qu'on entre en contact avec un avocat d'affaires qui crée une boîte aux lettres, qui nous donne une adresse, mais rien n'y s'y passe. Très souvent, par exemple, on a des sociétés qui inscrivent des millions de dollars dans des filiales dans les paradis fiscaux où il y a 2 employés et demi. À moins qu'ils soient extrêmement productifs, on peut se dire qu'au fond, il s'agit d'argent généré par une activité économique quelque part dans le monde qui s'est trouvé délocalisé afin d'éviter les lois et le fisc, sans pour autant que l'activité ait eu lieu là où on délocalise l'argent. Donc, ça, c'est la définition, si vous voulez, type. Bon. Il y en a une que je préfère, qui est plus floue, qui est celle d'un fiscaliste américain qui a signé un rapport pour la Maison-Blanche à Washington en 1980, qui s'appelle Richard Gordon, et qui a écrit simplement ceci dans son rapport, quand il définit les paradis fiscaux, il dit « Un paradis fiscal est une législation considérée telle par ceux qui en profitent. » Pourquoi le définir comme ça et pourquoi moi je privilégie cette décision-là? C'est que les paradis fiscaux s'adaptent, ils sont plastiques, ils bougent. Des pays qu'on estimait être des états de droit traditionnels deviennent des paradis fiscaux en ce qui concerne certains types d'activités. Des législations qu'on considérait être des paradis fiscaux parfois parviennent à se durcir et à ne plus l'être ou à l'être moins. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de suivre les capitaux. Et quand, dans une législation, il y a beaucoup plus de capitaux que ce qu'explique l'économie réelle, c'est-à-dire l'activité industrielle, le commerce sur place, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un paradis fiscal. Et là, il faut chercher pourquoi. Et il se peut que la définition soit d'une nature particulière et qu'elle échappe un petit peu aux quatre premiers points, même si on est toujours dans ces aires de considération-là, dans ce domaine de problème-là. Maintenant, il y a quatre raisons. Il y a quatre raisons pour se soucier des paradis fiscaux. Fiscale, sociale, criminologique et politique. Fiscale, d'abord, et chaque point est de plus en plus important et on va entrer dans une déprime de plus en plus dense tous ensemble. Je vous promets que vous sortirez d'ici miné. Bon. Sinon, on vous rembourse. Bon. Donc, le premier point concerne la fiscalité. D'une manière un peu anecdotique, on a tendance à insister sur les particuliers. Hein. En France, par exemple, il y a un grand acteur russe qui a quitté le pays pour aller d'abord en Belgique et ensuite en Russie pour éviter le fisc. Ici, on a beaucoup parlé récemment de Philippe Couillard avec son compte à Jersey. On pourrait parler aussi de la famille Turmel qui a longtemps contrôlé Provigo pour ensuite, en ce qui concerne certains membres de la famille, se la couler douce aux Bahamas après avoir vendu le groupe. C'est certainement important de considérer les capitaux que perdent les pays quand on voit des acteurs qui se sont enrichis dans ces pays-là quitter physiquement le pays pour s'inscrire physiquement ailleurs et élire domicile ailleurs et vivre ailleurs pour éviter l'impôt. Mais vraiment, en ce qui concerne le fisc, le gros problème concerne les entreprises. Vraiment, le problème est là. Si on insiste sur les personnes plutôt que sur les entreprises, on passe à côté du problème. Et les entreprises, elles profitent des impôts, des paradis fiscaux tous les jours, pas quand elles prennent leur retraite. Si les entreprises pouvaient prendre de temps en temps leur retraite, ce serait pas mal. Malheureusement, les personnes morales ont une espérance de vie plus grande que celle des individus. Il reste que les entreprises peuvent, par rapport à un certain nombre de stratégies, comme le prix de transfert, éviter le fisc grâce aux paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est le prix de transfert? En deux mots, c'est très simple. Une société active, par exemple, ici, dans la région, et qui produit je ne sais trop quel bien, peut créer une filiale à la Barbade et transférer un certain nombre de ses actifs à cette filiale. Céder à sa filiale des actifs qu'elle a, une voiture de fonction, un immeuble, un certain nombre de biens, des instruments de travail, des machines, peu importe. Et chaque mois, elle loue à sa filiale, qui est propriétaire de ses propres biens, les 10 biens. Et elle envoie chaque mois des fonds à sa filiale de façon à réduire ici ses revenus et à les augmenter là où il n'y a pas d'impôt, de façon à payer le moins d'impôts possible. Pas toutes les sociétés font ça, hélas, parce que cela concourt à nous faire perdre beaucoup de fonds publics pour le financement d'une salle comme celle-ci, des hôpitaux, des routes, des bons. Et ça explique énormément de choses quant à notre manque à gagner collectif. Un jour, j'ai jamais pu retrouver exactement cette citation-là, mais elle a été corroborée par beaucoup de sources. orale, là, des gens qui j'ai discuté, qui connaissent bien l'intéressé. Un jour, l'ex-ministre des Finances du Québec, Jacques Parizeau, avait dit « Si une société paie des impôts au Canada, c'est qu'elle a vraiment un très mauvais comptable. » Il y a aussi la possibilité pour une filiale de signer directement des contrats pour des prestations qui sont en fait réalisées dans les États traditionnels. La filiale, la Barbade, par exemple, peut signer une entente avec un client espagnol ou peu importe, même un client d'ici, et encaisser le fruit de la transaction directement à la Barbade, sans que cela donc ne passe pour un actif dans les comptes de la société ici, alors que la production sera faite ici. Pourquoi c'est un problème? C'est que très souvent, les représentants d'entreprises vont présenter l'État comme un poids, les impôts comme une charge, la mission sociale de l'État comme un luxe, alors que les entreprises, les investisseurs ont précisément besoin de ces infrastructures-là pour générer des actifs privés. L'investisseur qui arrive ici, là, disons, dans la grande région de Gatineau et de Ottawa, il a à sa disposition, cet investisseur, deux aéroports, un système de justice, un système routier, un système de santé pour soigner un personnel aux frais des contribuables, un personnel formé sur mesure pour ses intérêts, et quoi encore, un système de police. C'est sûr, le même investisseur, s'il arrive à Port-au-Prince, il n'y a rien de tout ça, parce qu'historiquement, les Occidentaux ont tout fait pour qu'à Port-au-Prince, il n'y ait pas de développement. Bon, c'est une autre question, mais c'est simplement pour donner un exemple, pour montrer que les investisseurs ont une dette envers les gouvernements en ce qui concerne les infrastructures publiques qui sont indispensables à leur essor. Et on se trouve dans une situation où, au contraire, tout est fait pour qu'ils en paient le moins possible au nom de ce sophisme idéologique qui consiste à dire qu'ils généreraient la richesse alors qu'ils sont très souvent actifs pour la ponctionner. Autre chose. Mais il reste qu'on est face donc, à un système qui favorise l'évitement fiscal grâce à ces stratégies-là, telles que le prix de transfert que j'ai décrit. C'est le premier point. Le deuxième point concerne les enjeux sociaux. Je n'aime pas tellement parler de paradis fiscaux, à vrai dire. J'utilise l'expression parce qu'elle est courue. Mais dans un livre antérieur qui s'intitule « Offshore », je préfère parler de législation de complaisance parce que les paradis fiscaux ne sont qu'une catégorie d'États parmi d'autres qui correspondent à ces législations de complaisance, à savoir qu'une législation de complaisance... Hein, comme la Barbade, les Bahamas, le Luxembourg, les îles Marshall, sont des États qui permettent à des acteurs, où qu'ils soient dans le monde, de contourner des contraintes de quelque nature que ce soit. L'idée, c'est que quand on vit en société, quand on est minimalement civilisé, on comprend qu'il y a des exigences au vivre ensemble qui prennent la forme de contraintes. Nous, ici, on sait que parce qu'on vit en société, on ne peut pas tout faire. Bon, ben, les législations de complaisance permettent à des acteurs puissants, quand je dis acteurs puissants, je pense à des banques, des institutions financières, des grandes industries, des multinationales, des détenteurs de fortune, de contourner les contraintes en vigueur chez eux pour bénéficier des largesses de ces législations ultra-permissives. Et ce n'est pas seulement par rapport au fisc. Oui, c'est par rapport au fisc, mais pas seulement. Les paradis fiscaux, oui, concernent le fisc. Le Liechtenstein existe pour permettre à des contribuables allemands de contourner le fisc allemand. Monaco existe pour permettre à des contribuables français de contourner le fisc français. La Barbade existe pour permettre à des contribuables canadiens de contourner le fisc canadien, et ainsi de suite. Donc, il y a des paradis fiscaux qui ont cette spécialité-là. Mais quand on considère qu'il y a 80-90 paradis fiscaux et législations de complaisance dans le monde, on doit considérer que ces législations de complaisance-là ont toutes une expertise particulière. Je les compare souvent à des boutiques dans un centre commercial. Chaque paradis fiscal a en quelque sorte son offre propre, son expertise propre, son champ de spécialisation. Évidemment que dans le domaine de l'assurance, par exemple, si une compagnie d'assurance veut contourner les lois qui concernent l'assurance chez elle, eh bien, elle va s'inscrire aux Bermudes, aux îles Turques et Caïques, parce que ce sont les législations spécialisées dans le domaine de la réassurance, de façon à permettre à des compagnies d'assurance d'assurer des clients sur la base de critères qui ne sont pas recevables dans l'état de droit où ils évoluent, ou bien de spéculer à la bourse à partir de leurs fonds propres sans respecter les normes qui prévalent dans les législations traditionnelles. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle dans le domaine scientifique, l'Irlande est le paradis fiscal tout désigné. Il y a quelques années, il y a des artistes qui se sont découverts une passion pour l'Irlande parce que tout d'un coup, on pouvait effectivement inscrire ses revenus quand on appartient à cette catégorie d'acteurs sans payer d'impôts. En ce qui concerne le transport maritime, évidemment, la plupart des armateurs du monde font battre pavillon de complaisance à leurs navires, c'est-à-dire qu'ils inscrivent leurs navires non pas en France, en Allemagne ou en Espagne, au Canada, mais dans des législations comme le Liberia, les îles Marshall, la République maltaise et d'autres encore, afin d'éviter non seulement le fisc, mais toute la nomenclature légale en ce qui concerne le respect de l'environnement, le respect du travail, des travailleurs, la sécurité au travail, les normes, ainsi de suite, les normes sur le traitement des déchets toxiques, par exemple. Donc, si, en fonction du droit international, si on immatricule son navire au Liberia, bon, on pourra très bien être négligent en ce qui concerne le traitement des déchets, puis le gouvernement libérien risque de ne pas être très, très féroce en ce qui concerne l'application de mesures de ce type, quoi. Même chose pour les usines, c'est-à-dire que le problème des législations de complaisance en ce qui concerne le travail, c'est qu'on a créé beaucoup de zones franches en Haïti, en Jamaïque, au Mexique, au Bangladesh, en Inde, en Turquie, en Chine. Il y a des zones franches qui permettent à des entreprises de délocaliser le travail, les usines, de façon à ce qu'on puisse embaucher un personnel à 1 $ de l'heure, faire travailler les enfants, ne pas respecter quelques normes syndicales que ce soit. Et c'est ce qui explique beaucoup la délocalisation des entreprises. Parce que, d'une part, le travail coûte moins cher. Il y a une pression sur les salaires qu'on peut exercer dans ces zones franches, mais aussi parce que le transport maritime est devenu tellement économique, étant donné les ports francs, qu'on peut transporter les marchandises à rabais. En ce qui concerne le hors-bilan, vous savez, c'est ces entreprises qui veulent maquiller un peu leur compte pour satisfaire les actionnaires, on va au Luxembourg. Et si des investisseurs veulent créer une société minière, on va au Canada. Le Canada, c'est le paradis fiscal des mines dans le monde. Bon. Donc, 75% des sociétés minières mondiales sont enregistrées ici. Alors, ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est que du point de vue du fisc, ça nous coûte cher. On perd de l'argent collectivement à cause des paradis fiscaux. Je vais y revenir tout à l'heure. Le deuxième point concerne les aspects sociaux. Marie-Christine Dupuy-Danon, un jour, a dit « Le problème avec les paradis fiscaux, c'est qu'ils rendent légal ce qui est illégal chez soi. » Et quand un investisseur ou un décideur dans le secteur privé a à prendre une décision qui, évidemment, touche à quelque chose de litigieux ou d'illicite, le raisonnement consistera à se dire « Où est-ce que je peux inscrire mon activité pour qu'elle devienne légale ?» Donc, c'est un système de tricherie à la carte, au fond, où on loue de la souveraineté pour rendre légal des méfaits. La troisième question, j'allais un peu vite sur le troisième point parce que ce serait une conférence en soi, c'est la question criminologique, à savoir que bien évidemment, quand vient le temps de blanchir de la drogue, de pratiquer le trafic d'armes, le trafic des femmes en ce qui concerne la filière de la prostitution ou de la pornographie, le trafic de matières dangereuses ou d'espèces protégées, on passe par les paradis fiscaux. On n'inscrit pas ses comptes dans la caisse populaire du coin, quoi. Et le problème, au fond, porte pas seulement sur le fait que les paradis fiscaux favorisent le crime organisé à l'échelle internationale, qui représente des milliards de dollars. Jean de Maillard, le juge français, parle du produit criminel brut, puis il dit que si les principaux barons du crime organisé s'unissaient, il faudrait les inviter au G20, tellement ils sont devenus puissants et financièrement. Mais le problème, c'est que ces fonds-là se métissent à l'économie réelle. Et qu'on ne distingue plus l'économie réelle de l'économie illicite. Les plus principales banques du monde, par exemple, gèrent notre épargne ici pendant qu'elles gèrent les fonds des dictateurs. Ce sont les mêmes, quoi. Les pétrolières, les minières, nous vendent sur un mode licite toutes sortes de biens, tandis qu'elles pratiquent le trafic d'armes dans des dictatures. Bon, c'est tout à fait connu, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps tout à fait d'épiloguer ici ce soir. Le quatrième point porte sur des enjeux politiques, et je pars d'une donnée, selon la Banque de règlements internationaux, qui regroupe les banques centrales du monde, la moitié des transactions internationales concernent les paradis fiscaux. Donc, ce n'est pas un problème parallèle, marginal, isolé. Au contraire, l'économie a une face cachée, qui est celle des paradis fiscaux, où on évalue à peu près la moitié du stock mondial d'argent qui transite, qui circule, qui reste, qui s'y confine. Et ça a des problèmes, des incidences politiques, et pas seulement économiques, dans la mesure où les acteurs qui ont accès à la moitié de ces fonds occultes-là sont en mesure de mener des opérations, de prendre des décisions sans aucun contrôle public. C'est tout le problème qui se pose aujourd'hui quant à la question politique des paradis fiscaux, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de se dire est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal, c'est de se dire il y a des acteurs qui peuvent aujourd'hui prendre des décisions d'envergure en ce qui concerne la mobilisation de mercenaires, le trafic d'armes, la corruption, l'exploitation, et qui sont souvent séduits par les différents états du monde, comme d'honnêtes hommes d'affaires qu'il faut attirer parce qu'ils sont méritants, ils ont du leadership, mais c'est juste si on lit Forbes. Alors qu'au fond, ils ont accès à des capitaux qui sont complètement déréglementés. Et c'est un problème très grave parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des entités économiques, hein, comme General Electric, comme Coca-Cola, comme Total, qui sont plus puissantes qu'un grand nombre d'États, étant donné qu'elles ont ancré leurs activités dans des États qui n'en sont pas, ou dans des États qui sont des fantasmes d'investisseurs, c'est-à-dire les paradis fiscaux et les législations de complaisance. Si on se situe par rapport à nous ici, en date de 2013, dans les 7 principaux paradis fiscaux où les Canadiens se trouvent, on se trouvait à avoir, en termes d'actifs, d'investissement, selon Statistique Canada, 155 milliards de dollars. Bon, la même et en tout et pour tout, dans les paradis fiscaux qui ne sont pas exotiques seulement, là, en 2013, c'était 170 milliards de dollars que, d'une manière cumulée, les Canadiens avaient placé. Bon. Théoriquement, les investissements directs à l'étranger, ce sont des immobilisations que des entreprises font, des multinationales, à travers des entités qu'ils contrôlent d'un pays à l'autre. Mais le problème avec les paradis fiscaux, c'est que les termes qu'on utilise pour décrire l'économie réelle désignent toujours autre chose. Vous savez, par exemple, aux îles Caïmans, on a des fondations caritatives qui sont propriétaires des avions d'Air France. Vous avez des trusts, par exemple. Des trusts, par définition, c'est le fait de confier un gestionnaire à un bien au bénéfice d'un tiers. Bon, ben, vous avez des trusts à Hong Kong, ailleurs, qui ont pour créateur, fondateur, pour gestionnaire et pour bénéficiaire la même personne. C'est une contradiction dans les termes. Bon, bien, vous avez des investissements directs à l'étranger qui ne sont pas des investissements, mais qui sont simplement, sous le couvert d'investissement, des transferts de fonds visant à éviter le fisc. Donc, c'est de l'argent qui circule à toute vitesse. Donc, ce sont des fonds qui pratiquement se renouvellent à chaque année. Donc, on a officiellement, juste au titre de cette statistique-là, et il y en a bien d'autres, hein, mais des dizaines de milliards de dollars qui sont placés chaque année par des Canadiens dans les paradis fiscaux pour contourner le fisc. Bon, c'est un manque à gagner qui est difficile à chiffrer, mais qui se compte quand même sur un mode donc très volumineux et qui nous concerne. Je vais conclure sur les incidences qu'ont les paradis fiscaux pour nous, mais je voudrais, peut-être que le temps file, j'ai pas de... Sur combien de temps est-ce que j'ai encore?
Jusqu'à minuit.
Une demi-heure. Mais je vais passer un peu vite sur le caractère historique qui m'a beaucoup intéressé dans Paradis fiscaux, la filière canadienne, là, ce bouquin. À savoir que non seulement les paradis fiscaux nous coûtent beaucoup, ce qui devrait nous préoccuper, mais historiquement, des Canadiens en sont très souvent les fondateurs, les pionniers. Il y a deux... Ben déjà... Quand les paradis fiscaux, au tournant des années 1950-1960, les paradis fiscaux, comme on les entend aujourd'hui, là, selon une définition contemporaine, ont été créés, dans, principalement dans la Caraïbe britannique. Hein. Il y a beaucoup de paradis fiscaux dans la Caraïbe britannique. Hein. La Barbade, les Bahamas, la Jamaïque, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, le Turc et Caïque, Trinidad et Tobago, il y en a énormément. Bon. Ben, quand ces territoires britanniques des Caraïbes sont devenus des paradis fiscaux, déjà la grande majorité des banques qui y étaient canadiennes. Et les acteurs canadiens étaient omniprésents, pas seulement dans le secteur bancaire, mais dans le secteur de la santé, de la sécurité, de l'énergie, ainsi de suite. Quoi. Les travaux publics, bon. Et pourquoi est-ce le cas, pour aller rapidement, là, c'est que, bon, le Canada, c'est quand même une ancienne colonie ici. Bon, à mon sens, il en est toujours une monarchie constitutionnelle, c'est un euphémisme pour désigner une colonie. Bon, donc, le Canada étant une colonie au 19e siècle, il se trouve, en quelque sorte, à gérer l'intendance bancaire. Ben déjà, il se trouve à développer le secteur bancaire de manière absolument favorable aux banques. Ce sont les banquiers eux-mêmes qui établissent le cadre dans lequel les banques canadiennes vont fonctionner. Et donc, ça donne un avantage réglementaire très important aux banques par rapport canadiennes par rapport aux banques américaines. Aux États-Unis, les banques sont contrôlées. Elles ne peuvent pas créer de filiales à l'étranger, par exemple. Alors, les banques canadiennes ayant les coudées franches, elles s'inscrivent aux États-Unis, développent une clientèle américaine pour permettre à cette clientèle-là d'investir déjà au 19e siècle dans la Caraïbe britannique sans rester contraint par ce système américain un peu étouffant. Quoi. Donc, les banques canadiennes se développent beaucoup dans les Caraïbes au 19e siècle pour favoriser ce développement américain-là, mais aussi, c'est à des banquiers de Halifax qu'on confie l'intendance du secteur financier du point de vue de Londres. Là. Londres confie... bon. Je passe un peu sur les détails, mais tout ça pour dire que dans les années 50-60, au moment où se développeront les paradis fiscaux, les banquiers présents dans la Caraïbe sont à 70-90% canadiens. Bon, c'est vraiment les Canadiens qui sont là, qui animent le secteur bancaire. Il y a beaucoup de banques canadiennes qui s'installent, la Merchants qui deviendra la Banque royale du Canada, la Banque de la Nouvelle-Écosse qui deviendra la Scotia, la Banque impériale et la Banque de commerce qui viendra la CIBC au moment de se fusionner, et ainsi de suite. Et bon, donc, c'est le secteur bancaire canadien qui sera très présent au moment où, dans les années 50, deux raisons amènent les paradis fiscaux à éclore. Il y a deux genèses. La première concerne les années d'après-guerre. Une histoire très courte, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est absolument dévastée. Les Américains votent ce qu'on a appelé le plan Marshall, qui consiste à faire aller la planche à billets pour créer des dollars qui vont circuler partout dans le monde de façon à faire du dollar une sorte de monnaie universelle. Et donc là, on a 14 milliards de dollars en devises de l'époque qui sont injectés en Europe pour permettre la reconstruction de l'Europe. Et ces dollars-là seront volatiles, en fait. Ils vont générer après ce qu'on va appeler la planète financière. Et ils vont beaucoup favoriser le développement des paradis fiscaux parce que c'est la première fois dans l'histoire que des banquiers traitent des devises qui ne sont pas celles de leur pays. Donc on peut traiter des dollars comme si c'était une monnaie que personne ne contrôle, mais qui appartient à tout le monde. Et ça favorisera beaucoup la concentration de capitaux dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire que dans les petites îles, comme justement la Barbade, Jersey, l'île de Man, ou dans des principautés comme, ou des duchés comme le Liechtenstein ou le Luxembourg, là, on va profiter de cette manne-là pour générer tout un système bancaire qui échappe à tout contrôle. Quoi. Et donc, les Canadiens vont sentir que l'occasion se présente pour développer tout le secteur bancaire offshore, c'est-à-dire à l'extérieur des pays traditionnels. Et la première cible, ce sera la Jamaïque. En 1956, le premier gouverneur de la Banque du Canada, Graham Towers, après avoir quitté ses fonctions, est mandaté par l'ONU. Et à la demande de la Jamaïque, reçoit un soutien financier de l'ONU pour conseiller, entre guillemets, le gouvernement jamaïcain pour qu'il transforme complètement son secteur bancaire. Et dans cette année 1956, là, sous l'impulsion de la présence de Graham Towers, tout d'un coup, toutes les lois changent. les lois fiscales, les lois du travail, les lois en ce qui concerne l'investissement. Et on travaille à exonérer d'impôts le capital et à créer des zones franches pour permettre disons, le développement d'entreprises qui ne paient pas d'impôts qui ont droit enfin, à un encadrement minimal du travail. On va créer les International Business Companies, sont les ancêtres de plusieurs entités qu'on retrouve aujourd'hui dans les paradis fiscaux. Mais le problème, en fait, pour les intéressés, c'est qu'on arrive en Jamaïque, qui était le pays fort hein, de la Caraïbe dans ces années-là, au moment où il y a un mouvement indépendantiste qui se développe. En 1962, il y a le gouvernement Manley qui résiste au fond à cette transformation de l'île et ça capotera un petit peu, quoi. Mais il reste que la première volonté s'est faite là. Et on voit un peu dans quel contexte on est, et ça comptera beaucoup quand viendra le temps ensuite de tenter le même procédé aux Bahamas et dans les îles Caïmans. Mais dans ces îles-là, s'ajoute un deuxième phénomène qui est celui du crime organisé. Alors, si on se souvient, puis là je ne fais pas ça pour le folklore, c'est vraiment des éléments qui comptent, là, Al Capone a été condamné pour des raisons fiscales, quand on se souvient. Là. Alors, le crime organisé américain comprend à ce moment-là qu'on a intérêt à surveiller ses comptes. Et c'est dans ces années-là qu'on décide de délocaliser ses actifs à l'étranger, d'abord en Suisse, mais ensuite à Cuba, pour éviter que le fisc américain ne se mêle des comptes de mafieux qu'on essaie de pincer, alors qu'on n'arrive pas à le faire selon des motifs criminels, quoi. Alors, à Cuba, on crée des casinos qui fonctionnent très bien jusqu'en 1959 pour blanchir l'argent. Puis en 1959, il y a un incident qui s'appelle Castro, qui fait qu'on ne peut plus continuer, on délocalise les casinos aux Bahamas, où se trouve Stafford Sands, qui est le ministre des Finances et le ministre du Tourisme. Donc, le ministre du Tourisme donc, est responsable du jeu, de l'hôtellerie, des stations balnéaires. Et là, on développe tout un port et toute une aire d'exploitation des casinos pour favoriser l'avènement de ces fonds. Et des banques canadiennes, comme la Scotia et la Banque royale du Canada, seront sur place pour favoriser ce développement. Ce qui est intéressant de Sir Stafford Sands, dont j'ai parlé tout à l'heure, le ministre du Tourisme et des Finances, c'est qu'il est aussi membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, il peut, le jour, aménager la législation des Bahamas de façon à ce qu'elle ressemble aux intérêts de la banque qu'il gère le soir. Et par ailleurs, on verra apparaître dans ces années-là, aux Bahamas, Donald Fleming, qui est l'ex-ministre des Finances du Canada, qui, fort de ses connaissances, ce qui est un ministère des Finances, conseille très activement les autorités des Bahamas pour qu'elles transforment leurs lois fiscales et créent le secret bancaire. Et il le fait tout en étant responsable d'un trust de la Banque Scotia. Quand le fisc américain commence à comprendre qu'il perd beaucoup d'actifs à cause des Bahamas, et quand il se rend compte qu'il y a tout un système de blanchiment d'argent qui a lieu dans les Bahamas, où on arrive avec des valises là, pleines de billets de banque qu'on dépose dans des banques canadiennes pour blanchir ces fonds-là et les transformer en gains dans le cadre du jeu, des casinos, quel que soit le contexte. Donc là, l'IRS, le fisc américain, et les autorités politiques américaines et le droit américain, les instances judiciaires américaines, commencent à serrer la vis, ce qui donne l'idée à Jim McDonald, qui est un avocat de Calgary, de créer la même chose, de dupliquer le modèle, mais aux îles Caïmans. Là, il va créer toute pièce le droit fiscal des îles Caïmans en blindant le secret bancaire comme jamais, au point où on a des mesures, je ne me cite pas moi-même, mais je cite la directive, là, qui surprennent au fond ceux qui suivent la chose de près, là, c'est-à-dire... Voilà, c'est-à-dire que non seulement la loi sur le secret bancaire interdit aux agents professionnels du commerce ou de la finance de divulguer quelque information bancaire que ce soit concernant une activité ayant lieu au Caïman, mais également tous ceux entrant ou n'entrant pas dans les catégories précédentes, patentés ou non, habilités ou non à agir en une telle capacité. Autrement dit, n'importe quelle fourmi se trouve concernée par cette loi-là en tant qu'elle ne peut pas explicitement divulguer d'informations en ce qui concerne les activités commerciales ou bancaires sur l'île. Et le secret bancaire tel que conçu par Jim McDonald aux îles Caïmans est aussi internationalisé dans le sens où toute personne ayant touché au sol les îles Caïmans voit ce secret bancaire-là le concerner même dans ses voyages à l'étranger. Et donc, on est dans une sorte de donc, création judiciaire qui est quand même inquiétante dans la mesure où McDonald crée un cabinet d'avocats aux îles Caïmans qui s'appelle McDonald et Maples et qui s'appellera un peu plus tard Maples and Calder et qui est spécialisé non seulement dans la création d'entités visant à favoriser la délocalisation d'actifs des États traditionnels aux paradis fiscaux, mais à créer des paradis fiscaux. Et Maples a été très importante comme firme là, dans la transformation de la législation des îles Caïmans de façon à favoriser ce qu'on a appelé les fonds de couverture, c'est-à-dire les hedge funds, c'est-à-dire ces fonds à risque qui ont tellement compté dans la crise de 2008 et qui consistent à permettre à des acteurs de jouer à la bourse en passant nos actifs dans un contexte qui n'est pas réglementé du tout. Et là, c'est des milliards qui se jouent, et souvent par des algorithmes très complexes, on ne sait même plus à quoi ça rime. Et Maples, aujourd'hui, est une société qui a pignon sur rue, notamment à Montréal, pour permettre le développement d'une clientèle de ce type. Je dois aller vite, mais peut-être un dernier point sur l'œuvre canadienne. Les Canadiens, le gouvernement du Canada a de toutes pièces créé la Barbade, qui est le paradis fiscal des Canadiens. Tout à l'heure, je parlais du prix de transfert. Là, j'ai donné la Barbade comme exemple. Ce n'est pas pour rien, parce qu'en 1980, le gouvernement du Canada a signé une entente avec la Barbade permettant aux sociétés ou aux acteurs d'ici inscrivant des actifs dans une entité de la Barbade de les transférer de nouveau au Canada sans payer d'impôts. Et c'est ce qu'on a appelé un traité de non-double imposition. Les traités de non-double imposition ne sont pas si fous quand ils concernent des vrais États. Dire si, par exemple, une entreprise canadienne a une filiale en Allemagne et que cette filiale-là, étant donné son activité, génère des capitaux puis ensuite les transfère ici, on peut comprendre que si elle a payé des impôts en Allemagne, elle n'en paie pas deux fois, elle n'en paie pas ici également. Mais là, on fait comme s'il y avait des impôts à la Barbade. Donc, la société, par exemple, canadienne, qui crée une filiale à la Barbade et qui paie, c'est à peu près 0,5% d'impôts, ça peut aller jusqu'à 2,5% là, quand ils sont fort féroces. On va dire, là, ensuite, l'entreprise elle délocalise ensuite des fonds ici, elle les rapatrie en quelque sorte, puis elle dit, bon, vous voyez, au gouvernement canadien, j'ai payé 1% d'impôts à la Barbade, c'est dégueulasse, je ne vais quand même pas repayer des impôts ici, quoi. Et ça passe. En fait, ce qu'on appelle un traité de non-double imposition est en réalité un traité de double non-imposition, c'est-à-dire qu'on n'est pas imposé deux fois, quoi. Grâce à ce système-là. Et ça a été reconduit et reconduit année après année. Ce traité-là existe toujours et même on l'a élargi parce qu'aujourd'hui, quand le Canada signe des accords d'échange de renseignements fiscaux avec tous les paradis fiscaux qu'on peut imaginer, il y en a beaucoup qui en signent ces années-ci, sous prétexte de faire la lutte au secret bancaire, alors que ça ne marche pas très bien, les pays signataires, étant donné la réglementation canadienne, ont droit aux mêmes avantages que la Barbade. C'est-à-dire que les entités canadiennes, ensuite, quand elles créent des filiales dans ces pays-là, peuvent ensuite rapatrier des fonds sous la forme de dividendes sans payer d'impôts. Donc, notre gouvernement travaille à rendre les paradis fiscaux utilisables sur un mode légal. Et sous prétexte, au fond, de faire la lutte à la fraude fiscale, on la légalise. Une façon formidable d'améliorer les statistiques. Il y a moins de fraude fiscale qu'avant parce que ce qui était illégal hier devient légal aujourd'hui et tout est réglé. Il suffirait d'autoriser le meurtre, par exemple, pour faire baisser le niveau de criminalité au pays. Donc, on en est là. Et au fond, le Canada n'a jamais cessé d'avoir des liens très privilégiés, même intimes, avec les paradis fiscaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la Banque mondiale, le Canada partage son siège dans les instances de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international avec 11 paradis fiscaux des Caraïbes. Il faut savoir que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne fonctionnent pas comme l'ONU. C'est-à-dire que chaque pays n'a pas son siège. Et certains pays ont leur siège qui sont très, très puissants, mais la plupart des pays partagent leur siège. Donc, aujourd'hui, quand le ministre des, les finances, Oliver va parler au nom du Canada à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international. Il le fait au nom de, on behalf of, hein, au nom de Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Belize, Dominique, Grenada, Guyana, la Jamaïque, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, toutes des paradis fiscaux qui ont pour la plupart un secret bancaire tout à fait opaque. Toutes permettent des créations de sociétés qui permettent de contourner l'impôt et les lois ici. Toutes sont des plaques tournantes du narcotrafic provenant de la Colombie, essentiellement. Et toutes ces législations-là, à peu près, comptent sur des dirigeants corrompus, notoirement. On peut lire Transparency International, ainsi de suite. On peut avoir des sources. Et en plus de ces paradis fiscaux-là, il y a un pays européen, l'Irlande, qui est aussi un paradis fiscal, qui fait partie du lot. Et le Canada ne fait pas que cautionner l'existence de ces pays-là dans leur fonctionnement même en s'associant à eux. Il les défend à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international comme étant des bons paradis fiscaux. Une espèce de paradis fiscaux équitable, quoi, ou biologique, quoi. Mais, c'est-à-dire... Et je cite ici une phrase de Jim Flaherty, ministre des Finances, qui date du 25 avril 2009. C'est une déclaration faite au Comité monétaire et financier international du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international. Et il dit ceci, là, on est en plein diagnostic de la crise financière de 2008. Là. C'est un an plus tard et on sait que les paradis fiscaux ont été au cœur, avec les fonds à risque notamment, de ce processus d'appauvrissement des épargnants aux États-Unis notamment, mais ailleurs aussi, et finalement au bénéfice des grandes entreprises parce que leurs coffres ont été renfloués par l'État. Flaherty disait ceci, « Certains pays des Caraïbes, représentés par le Canada, ont d'importantes activités dans le secteur financier. Or, des modifications à la réglementation de ce secteur dans les pays avancés risquent d'avoir des conséquences négatives et involontaires sur ces activités. En particulier, les mesures prises à l'endroit des administrations non coopératives, y compris les paradis fiscaux, pourraient involontairement avoir des retombées négatives sur des centres financiers transparents et bien réglementés. Je crois que cela devrait être évité. » Donc, ce qu'il induit, c'est que les Bahamas, Belize, la Barbade, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent-Grenadines sont des centres transparents et bien réglementés. On se frotte les yeux. Et ce qu'on comprend, en fait, c'est que le Canada est un lobby des paradis fiscaux à l'intérieur de ces institutions financières-là, tout simplement parce qu'ils parlent en leur nom. Hein, sans parler du fait que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international contribuent beaucoup au développement d'acteurs canadiens qui se comportent d'une manière tout à fait impérialiste dans des pays... où il y a énormément de ressources, notamment dans le domaine de l'énergie. Je pense à Trinidad et Tobago en particulier. Il y a des pages et des pages là-dessus dans l'ouvrage. Par exemple, on cherche aujourd'hui à développer les sables bitumineux au Trinidad et Tobago avec tout ce tissu de relations d'acteurs puissants que vous pouvez imaginer. Le Canada lui-même, au fond, se trouve à imiter ces créatures. Donc, on a favorisé le développement des paradis fiscaux, on a créé un monde dans lequel les États sont en concurrence les uns contre les autres pour attirer un capital qui est devenu souverain parce qu'il se développe dans les paradis fiscaux, il n'est plus encadré, il n'y a plus d'économie nationale, il y a une mondialisation parce que les acteurs ont échappé au contrôle des États pour, au fond, inscrire leurs entités là où aucune loi ne prévaut. Et on se trouve, en quelque sorte, pour attirer ces capitaux-là, à imiter les paradis fiscaux. C'est-à-dire que, par exemple, ici, au pays, ça va devenir de plus en plus problématique, les fiducies de revenus ne prévoient aucun impôt quand elles sont créées au Canada, mais qu'elles ont des actifs à l'extérieur de notre pays. Vous avez des sites spécialisés en France dans la délocalisation d'actifs dans les paradis fiscaux qui écrivent littéralement, parce qu'ils montrent les 9 pays où ils sont actifs, là, Chypre, les îles Vierges britanniques, un certain nombre de pays. Puis parmi les 9, il y a le Canada. Bon. Et là, on va voir sur la petite fiche qui concerne notre pays, puis on dit, bon, ben, au fond, le Canada n'est peut-être pas un pays offshore, mais nous savons rendre une société canadienne offshore. C'est très facile, et il y a notamment ce système là, des fiducies de revenus. Nos provinces commencent à ressembler de plus en plus à des paradis fiscaux. L'Ontario, par exemple, a complètement rendu, édenté son système de contrôle du secteur financier, surtout dans le domaine minier, pour permettre à des entreprises de s'inscrire ici, de pomper la finance des Canadiens, c'est-à-dire notre épargne, via des fonds de retraite, des compagnies d'assurance, des banques, ainsi de suite, pour investir dans des projets absolument controversés, en sachant qu'ici, ils ne seraient jamais dérangés d'un point de vue politique ou légal. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, c'est mon bouquin « Paradis sous terre » qui évoque beaucoup ça. Halifax est devenu le pôle de gestion des firmes des Bermudes. C'est vrai que dans les Bermudes, l'immobilier coûte très cher. Il y a une pénurie de comptables. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de la Nouvelle-Écosse? C'est de rendre disponibles les comptables d'Halifax aux firmes des Bermudes qui existent pour permettre à des acteurs puissants d'ici, notamment, de contourner le fisc. Et donc, on donne des congés fiscaux en ce qui concerne l'embauche du personnel à ces firmes-là pour les inciter à s'installer à Halifax de façon à ce qu'elles embauchent aux frais des contribuables des comptables qui vont faire le travail d'arrière-boutique des firmes qui répondent du droit des Bermudes. Donc, ce ne sont plus les acteurs des états de droit traditionnels qui vont dans les paradis fiscaux pour créer des entités. Ce sont les entités des paradis fiscaux qui viennent ici créer leur arrière-boutique. Ce qui est quand même assez désobligeant à entendre en ce qui concerne le minimum de fierté qu'on pourrait conserver. Le Québec est un minéralo-État, comme on dit ailleurs dans d'autres contextes, des narco-États. Le Québec est un minéralo-État depuis le 19e siècle. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est un minéralo-État? C'est un État qui prend fait et cause pour l'industrie minière indépendamment des contreparties. Pendant des décennies, le Québec a dit à l'industrie minière mondiale, venez, ayez accès à nos ressources, polluer notre territoire, nous allons construire des routes, nous allons vous donner accès à l'eau, nous allons vous donner accès à l'électricité, nous allons financer votre création d'emplois, nous allons financer vos projets d'exploration, nous allons financer en partie tout le volet recherche et développement de vos entreprises, nous allons former des départements de géologie dans les universités pour former un personnel de façon à ce qui convienne à vos intérêts. Vous n'aurez pas de redevances, vous n'aurez pas d'impôts, vous aurez un droit tacite à polluer, et quand, dans 10 ans, vous nous laisserez un paysage lunaire, on fera semblant d'être surpris. C'est le discours, en ce qui concerne les mines du Québec, qui, dans le domaine pétrolier, se retrouve en Alberta. On dit sensiblement la même chose. L'Alberta étant ni plus ni moins qu'un pétro-État. Et pour s'enfoncer encore davantage, en 2011, je ne vous sens pas assez déprimé, en 2011, le Canada a signé un accord de libre-échange en bonne et due forme avec le Panama. Le Panama est la principale lessiveuse de fonds issus du narcotrafic au monde. Il n'y a pas un criminologue un peu dégourdi qui le confirmera pas, quoi. Donc, la plupart des fonds issus du narcotrafic dans toute la vaste région de la Caraïbe et de l'Amérique centrale se trouvent concentrés dans cette zone franche de Colón et à Panama même, pour ensuite passer par tour de canaux et ressortir comme de l'argent licite. Et évidemment, le Canada, en favorisant des investissements d'honnêtes investisseurs du Panama, statistiquement, va se retrouver à accueillir des fonds ici issus du narcotrafic pour favoriser ce blanchiment d'argent. Donc, on va avoir des investisseurs panaméens qui, grâce à cet accord de libre-échange, vont massivement investir dans l'immobilier à Toronto ou dans je ne sais trop quel secteur et qui vont, en quelque sorte, profiter de notre économie pour blanchir des capitaux. Je pourrais parler des zones franches. Le Canada a formellement des zones franches. Mirabel est une zone franche aussi. Pas d'impôt sur le revenu pour les sociétés qui s'y installent, pas de taxes sur le capital, pas de cotisation sur les fonds de santé et de services de santé. Il y a une société chinoise qui va bientôt s'installer sur ce mode-là, mais plutôt à Laval, mais en passant par une sorte de duplication du modèle de façon à vendre des produits faits en Chine sans passer par les intermédiaires ici. Donc, non seulement on a délocalisé le travail, mais maintenant on relocalise le tertiaire de façon à ce qu'il ne reste vraiment plus d'emplois. Bon, puis bon, pour s'éclairer par rapport à tout ça, parce que quand le ministère des Finances, au ministère des Finances, on décide de délibérer sur ces questions-là, de méditer sur ce problème-là, ben, on s'entoure de sages. Et donc, formellement, un groupe consultatif à Ottawa, au ministère des Finances, qui a été, il y a quelques années, constitué de représentants de la Banque Royale, de la Banque Scotia, de Barrick Gold, de PricewaterhouseCoopers, de Rogers, de Shell, de SNC-Lavalin, pour éclairer les lanternes du ministre. Donc, je conclue. J'ai combien de temps pour conclure? 10 minutes. Bon. On a une époque où on paie de plus en plus d'impôts et de taxes. Je pense à la classe moyenne, aux prolétaires. Par rapport à des services publics qui sont de moins en moins bonne qualité, et qui font de plus en plus, de toute façon, l'objet d'un tarif. Taxe santé, augmentation des droits universitaires, augmentation des prix du transport en commun, ainsi de suite. Malheureusement, dans le débat public, il faudrait un peu élargir les horizons de ceux qui ont accès à la parole publique, c'est tout un effort. On parle toujours de l'impôt des particuliers par rapport aux dépenses de l'État. C'est comme s'il y avait des vases communicants. Ou on coupe dans les services parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, nous dit le Conseil du patronat au Québec. Ou on augmente les taxes, les impôts, alors qu'on est le plus imposé d'Amérique du Nord. On est toujours dans cet enfermement stérile et idéologique. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le problème de la dette, le problème du sous-financement de l'État ne vient pas de dépenses publiques qui seraient trop élevées ou d'impôts qui ne le seraient pas assez, mais du manque de revenus liés à la concentration de capitaux dans les paradis fiscaux et à l'évitement fiscal des grandes entreprises. C'est un problème majeur. Et au sens qualitatif, moi j'ai toujours parlé des paradis fiscaux sur un mode qualitatif, je me refuse à me lancer dans du travail de type statistique, j'en ai pas les compétences, de un, et de deux, je pense que les enjeux s'enchaînent dans des logiques fatales. Hein. Il y a trois raisons qui font que nous nous appauvrissons collectivement à cause des paradis fiscaux. La première concerne la fuite des capitaux. Là, j'en ai beaucoup parlé, des milliards de dollars qui quittent le pays. Moi, ça ne fait pas des enfants forts en ce qui concerne le financement d'une cagnotte. Hein, qui, c'est ça, la mission sociale de l'État consiste à financer des services publics à partir d'une cagnotte. Hein. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on s'appauvrit quand on donne de l'argent à l'État. Au contraire, on s'enrichit parce que si on avait cet argent-là, on ne pourrait jamais avoir ce qu'on a lorsqu'on le met dans une cagnotte commune si on le dépensait par soi-même. Quoi. C'est un dollar donné à un individu produit moins de choses qu'un dollar mis dans une cagnotte quand tout le monde met un dollar dans une cagnotte pour se procurer un bien commun. Bon, c'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais le problème avec les paradis fiscaux, c'est qu'ils ne permettent pas, ils permettent à des acteurs qui devraient payer leur juste part de contourner les contraintes fiscales alors qu'ils profitent abondamment des services publics. Mais le problème n'est pas seulement là. C'est que plus des milliards quittent vers les paradis fiscaux, plus l'État constate qu'il est en concurrence avec les paradis fiscaux. Le Québec et le Canada sont en concurrence avec les Bermudes, avec le Liechtenstein, avec Singapour, avec tous ces États de complaisance, alors que ces États-là n'ont pas de mission sociale. Ils n'ont pas à financer un système de santé, un système d'éducation, un système routier. Presque pas pour la peine. Donc, du coup, on se retrouve à devoir rivaliser avec ces États-là sur un mode tout à fait désavantageux, alors qu'ils sont des fantasmes de banquiers. Hein. C'est le capitalisme pur, a dit un jour un représentant de cette firme Maples & Calder. Là. C'est le capitalisme pur, c'est le capitalisme sans les gens. Quoi. Les entreprises ont pu se donner des États sur mesure par rapport à leurs intérêts propres. Donc, le problème, c'est qu'ici, pour retenir les capitaux, ben, on donne dans ce qu'on appelle le dumping. C'est-à-dire qu'on baisse les charges fiscales envers les entreprises. Alors, plus il y a des milliards qui quittent, moins on impose les entreprises ici dans l'espoir de retenir l'argent qui reste. Donc, par exemple, en 1981, l'impôt sur le revenu des entreprises frisait les 38 %. Il est de 15 % aujourd'hui. Il y avait une taxe sur le capital, elle n'existe plus. Les revenus de type financier étaient imposés. 75 % des revenus financiers étaient imposés. C'était déjà choquant parce qu'on se demande pourquoi ce n'était pas 100 %. Mais c'est 75 %, on est passé à 50. Donc, quand on a un revenu comme salarié, il est imposé à 100 %. Quand on a un revenu comme actionnaire, il est imposé seulement 50 % du montant qui est imposé. Avant, c'était 75. Ainsi de suite. On a aboli ou diminué énormément de taxes par rapport aux entreprises pour être compétitif avec les paradis fiscaux qu'on a créés par ailleurs, ou que des banques d'ici ont créés par ailleurs, ou des acteurs d'ailleurs ont créés, pour favoriser justement la soustraction des entités privées aux obligations sociales, tout en profitant encore une fois du service public. Et le troisième point porte sur l'endettement. C'est que comme on n'arrive plus à boucler le budget, ben on emprunte auprès de ces acteurs qui sont précisément dans les paradis fiscaux. Donc, on emprunte à des acteurs qu'on n'impose plus. Donc, il y a des capitaux qui partent. Pour retenir ceux qui restent, ben, on diminue les impôts. Et pour boucler le budget, on emprunte. Et on se retrouve complètement à la solde d'acteurs qui sont de plus en plus puissants et qui le sont de manière exponentielle. C'est ça qu'il faudrait essayer de faire comprendre aux journalistes, d'abord. Parce que je constate, quand je le dis à des gens qui sont... Ils le comprennent assez vite. Quand je le dis à des journalistes aussi, ils le comprennent aussi tout aussi vite parce que c'est des gens intelligents, là. Mais comme acteur public, il y a comme une difficulté à faire tous les liens tout le temps. C'est de temps en temps, on va s'arrêter, on va parler des paradis fiscaux, on en a parlé, maintenant on va parler de la santé, maintenant on va parler de, de la charte, on va parler de... Non, mais on ne sera pas capable de maintenir en tête non, ce cadre qui est, au fond, qui est celui dans lequel on évolue tous les jours, et pas seulement une fois ou six mois quand vient le temps de se rappeler que les paradis fiscaux existent. L'assiette fiscale, je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'assiette fiscale, c'est-à-dire la cagnotte là, qu'on se donne collectivement, les entreprises contribuent seulement à hauteur de 10 % alors que les particuliers contribuent à hauteur de 40 % cette cagnotte-là. Dans l'industrie minière seulement, par exemple, les employés des sociétés minières paient trois fois plus d'impôts que les sociétés minières. On voit dans quel... Et très souvent, on va dire, ben c'est bon, il faut alléger le capital, il faut oxygéner le capital parce que c'est lui qui crée la richesse, il faut qu'il y ait de la création d'emplois, des investissements, mais c'est absolument faux dans le sens où en 2013, les multinationales, les entreprises de ce pays avaient en banque 544 milliards. Là, je parle des dépôts bancaires, comme quand on va porter notre chèque de paye. Là, les entreprises ont cumulativement 544 milliards de dollars en poche. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on les aide à investir. Au contraire, ils croulent sous l'argent. Très souvent, ces fonds-là sont délocalisés à l'étranger. Ils sont placés aussi... puisqu'il s'agit de faire toujours plus d'argent, s'il s'agit d'investir dans, en ce qui concerne l'industrie, dans des zones franches où là, on aura droit à des normes sur le travail qui sont minimales, dire aucun salaire minimum, ainsi de suite, on peut engager des enfants, c'est super pour le textile notamment. Et donc, on se retrouve en fait toujours plus aspiré par cette spirale infernale-là. Voilà, puis PricewaterhouseCoopers ou KPMG régulièrement, année après année, publient des rapports disant que pour les entreprises, le Canada est un des lieux les plus cléments fiscalement pour investir. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'État nous dit qu'il n'a pas d'argent parce qu'il a créé des échappatoires pour permettre aux détenteurs de fortune et aux entreprises de contourner les normes contraignantes qui pèsent sur nous comme contribuables captifs parce qu'on est la classe moyenne essentiellement salariée ou les prolétaires, on paie des taxes à la consommation. C'est essentiellement ce qui contextualise notre réalité. Et voilà, et l'heure est vraiment venue de comprendre ces enjeux-là. Et au titre des solutions, parce que je dis toujours que je ne pense pas que, comme solution, on doive envisager le suicide collectif, il y a des choses à faire à la condition de se dire qu'on ne réglera pas le problème demain matin. Mais un des premiers pas auquel je vous convie solennellement, parce que moi, je suis sur le point là, de quitter la scène. Ça fait 15 ans que je fais ces conférences-là sur ce thème-là. Je pense que l'heure est venue pour tous les acteurs sociaux d'aborder ce problème-là sans complexe par rapport au secteur particulier dans lequel on est. Que ce soit la culture, la solidarité internationale, la santé publique, l'éducation, la justice sociale, l'économie locale, l'économie solidaire, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, l'heure est venue d'inscrire le problème des paradis fiscaux au chapitre des diagnostics et des plateformes de revendication qui sont les nôtres. Je rêve du jour où un artiste recevra un trophée plutôt que de remercier son agent, parlera des paradis fiscaux pour expliquer que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à financer les troupes de danse, les troupes de théâtre. Qu'un directeur d'hôpital dira que si les patientes et patients attendent 8-9 heures pour voir un médecin à l'urgence ou 6 mois ou 1 an pour une intervention souvent banale, c'est à cause des paradis fiscaux. Que si on attend un autobus 1h30 à moins 20 l'hiver, c'est à cause des paradis fiscaux. Que si on n'arrive pas à avoir un soutien pédagogique important dans les écoles, là où c'est important, c'est à cause des paradis fiscaux. Si l'État n'a pas d'argent, c'est à cause des paradis fiscaux, c'est que l'État ne se donne pas les moyens dont il a besoin pour financer sa mission sociale. Il est extrêmement complaisant, il y a le phénomène des portes tournantes. Hein, je veux dire, vous avez deux ministres des Finances qui ont quitté la scène coup sur coup cette année, Raymond Bachand et Jim Flaherty. Et les deux ont dit, quand on leur a demandé « qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ?», on s'imaginait qu'ils allaient dire « bon, ben, je veux dire, je ne sais pas, tricoter ou jouer au golf », ainsi de suite. Ils ont dit tous les deux « nous voulons siéger dans un conseil d'administration d'entité privée ». On est dans un phénomène où, au fond, il y a une symbiose entre le secteur financier, le secteur politique, le secteur industriel, qu'il faut casser à tout prix si on veut reprendre la main. Je pense qu'on en est au stade où les peuples doivent réapprendre à se donner des institutions qui leur ressemblent.